Donc, en fait, moi, je suis là en tant que conteuse, une conteuse qui se pose des questions sur un compte qu'elle est en train de travailler. Et si je suis avec vous cet après-midi, bah, c'est pour vous livrer mon travail humble et intime, je dirais, parce que c'est aussi une part intime qui n'est jamais révélée de ce travail de conteuse par rapport au compte de la jeune fille sans main. Donc, je suis ni anthropologue, ni historienne, ni sociologue, ni quoi que ce soit. Je suis juste une conteuse en quête de sens pour pouvoir raconter ce conte de la jeune fille sans main. Alors que je vous resitue toute l'historique, comment je suis arrivée à avoir l'impulsion pour raconter ce conte. Je dirais tout est parti d'une formation du CMLO que j'ai suivie il y a une dizaine d'années où on avait abordé la jeune fille sans main, où il y avait un motif qui m'était, vous savez, sauté, voilà, qui m'avait sauté dessus, qui était le motif où quand la jeune fille plonge ses mains dans la rivière, elle repousse parce qu'elle veut sauver son enfant. Moi, je n'en avais retenu que ça, c'était ça qui m'était resté de ce conte. Le reste, j'avais tout oublié. Ce qui m'était resté aussi, c'est qu'à ce moment-là, je m'étais dit, un jour, ce compte, je le compterai. Voilà, c'était la seule chose qu'il y avait dans mon état d'esprit. Puis après, voilà, j'ai travaillé sur plein d'autres choses. Arrive après cet été, en fait, j'ai postulé pour participer au RIAO, Rencontre internationale sur les réalités qui ont lieu au Bénin, avec un thème très particulier que je vais vous lire, qui est Révéler les matrimoines et valoriser les patrimoines par les imaginaires et les traditions orales pour un développement durable et humain. Voilà, c'est le thème. À partir de là, il fallait que je construise un spectacle puisque je voulais me présenter à ce festival. Il fallait que je construise un spectacle et je n'avais pas un sous la main. La première chose, j'avais rien, j'avais vraiment pas grand-chose à leur proposer, si ce n'est qu'un matin, je me suis réveillée. Je fonctionne beaucoup comme ça, par les intuitions du matin, où j'avais le titre. C'est déjà pas mal. Et le titre était une évidence, c'était Une femme comme les autres. Voilà, c'était ça qui m'était venu, en référence bien évidemment à Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. C'est comme ça que ça avait résonné. Donc voilà, je vous lis vraiment ma démarche, hein. Et j'avais rien d'autre. Voilà, bon, bah voilà, il faut faire un spectacle avec ça. Donc, j'ai pensé à plein de merveilleux. J'essayais de voir la place de la femme. Je me questionnais sur le genre à ce moment-là, quel conte je pourrais y mettre. Et tout un tas de contes me sont venus, et principalement des merveilleux à ce moment-là. Donc, j'étais déjà partie dans ce type de contes, les contes merveilleux, jusqu'au jour où, toujours un matin, le conte de la jeune fille sans main est revenu frapper à la porte de mon esprit et je me suis dit, ah oui, lui, il aurait quelque chose à dire sur les femmes comme les autres, ça résonnait en tout cas pour moi. Donc j'y ai repensé, j'en savais pas plus que ce motif dont je vous ai parlé de la jeune fille qui plonge ses mains dans la rivière. Donc j'ai commencé à relire la version de Grimm et directement, j'ai compris que ce n'était pas la peine de mettre d'autres contes, que c'était celui-là qui prendrait toute la place, qu'il avait besoin de place déjà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à travailler principalement ce conte-là et pas d'autres pour le spectacle. Sachant que j'avais quand même eu aussi, encore ces petites révélations, les tisseuses, les parcs, qui m'était arrivé à l'esprit, ces fameuses déesses. Alors, je parle des parcs parce que c'est dans la mythologie grecque, mais elles existent dans beaucoup de mythologies, de ces trois femmes qui sont là. Donc, elles étaient aussi là quelque part en moi quand j'ai commencé à faire ce travail. Je suis donc rentrée dans la version de Grimm et je n'ai pas voulu chercher beaucoup d'autres versions. C'est un travail que je fais souvent, de chercher beaucoup de versions d'un conte merveilleux pour pouvoir trouver ma propre version. Mais là, j'ai voulu vraiment m'orienter sur la version de Grimm et pas partir trop parce que je voulais pas faire. J'ai très vite compris qu'il y avait tellement de versions de la jeune fille aux mains coupées, avec tellement d'entrées différentes que je voulais rester axée sur celle que proposait Grimm. Alors, j'ai pas cherché d'autres versions au sens qu'on l'entend. Au niveau du conte, mais plutôt des manières dont ce conte a été utilisé. Je m'explique. Notamment, j'ai très vite rencontré la version de Clarica Pinkola Estes, qui le développe dans son livre Femmes qui courent avec les loups. Donc, j'ai lu aussi sa version qui, alors, voilà, c'est une femme qui développe le côté sauvage, la femme sauvage, hein, donc elle a vraiment une intention très forte par rapport à ça. Elle a toute une analyse qui est en fonction de cet axe-là, de la femme sauvage. Et elle revendique ce conte comme lui venant de sa tante et un conte qui a été créé familial. Quand on lit le conte, on retrouve complètement Grimm. Hein. Sincèrement, on a Grimm, simplement, elle a eu. Justement, elle a commencé à déchristianiser un petit peu le conte, elle a eu sa version de Grimm. Après, toujours en restant dans la version de Grimm, mais exploitée, j'aime pas trop ce terme, mais enfin utilisée et mise en scène par d'autres, je me suis nourrie aussi du film de Sébastien Lodenbach, qui s'appelle La jeune fille sans main, qui est un film qui a un dessin animé, en fait. Et je l'ai visionné. Et en plus, je me suis renseignée sur la manière dont il avait abordé ce conte, comment il avait fait pour créer son dessin animé. Là aussi, sa manière, il a suivi un axe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait voulu en faire un animé dans les années 2000 à peu près, et le projet n'a pas abouti. À ce moment-là, il avait beaucoup utilisé la version de Grimm et aussi la version qu'en avait faite Olivier Py, qui est un metteur en scène, et qui l'avait mise sous forme d'une pièce de théâtre qui existe, qui est publiée sur l'École des loisirs, et qui en a fait donc voilà, un objet théâtral. Et puis après, je suis allée voir quand même d'autres versions, là où moi je me posais question et je trouvais pas de solution. C'est là seulement à ce moment-là que j'ai été chercher d'autres versions, où je me suis notamment dans la version de Grimm ou celle qui a été reprise par Clarissa Pinkola Estes ou bien celle de Sébastien Lodenbach, il n'y avait pas ce fameux motif qui est de la femme qui plonge ses mains dans l'eau et qui sauve son enfant. Et j'y tenais quand même, alors que je suis allée lire des versions où je retrouvais ce motif-là. Mais je ne voulais pas faire un patchwork de ce qui me plaisait, parce que j'avais lu d'autres versions, comme notamment le fait d'aller retirer l'épine pour le pardon par rapport à la personne qui a coupé les mains. Je trouve ça très beau, mais il me semblait que ça n'avait pas lieu d'être dans les versions, dans la version de Grimm, et que c'était tout à fait autre chose. Donc, même si je trouvais ça beau et intéressant, j'avais pas envie de faire un patchwork de versions et de rester vraiment axée sur ma version de Grimm. Simplement, quand je suis allée voir d'autres versions, c'était vraiment pour m'apporter de la nourriture pour ce que je cherchais à faire, ce que je cherche à faire, hein, parce que je voudrais bien spécifier que je suis complètement en travail, le spectacle n'est pas encore fait. Donc là, je suis vraiment dans la phase d'élaboration de ma propre version, et c'est ça que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui, en fait. C'est comment je. Quel chemin j'emprunte pour essayer de donner une vision. Alors, vu ce que demandent révéler les matrimoines et les patrimoines dans les imaginaires, je veux donner un conte transmissif, enfin transmissif, oui, de la transmission en tout cas. Donc il faut que je garde une ligne en tout cas de trame bien claire et nette. Mais en même temps, il faut que ça soit justifié pour moi, parce qu'à partir du moment où je transmets un conte, il faut que la logique soit complète pour moi, sinon je ne peux pas le transmettre. Donc cette logique, je ne l'ai pas toujours trouvée dans le compte même. Et j'ai été le chercher dans un autre compte aussi que Françoise Dieppe m'a fait la joie de me raconter vite fait la dernière fois au dernier séminaire à la fin et que je suis allée rencontrer. C'est celle de Dalgoum, qu'elle a travaillé avec de Mouloud Mameri, où là aussi j'ai pu avoir quelques éclairages sur des questions que je me posais. Et puis j'ai aussi eu toute une démarche de m'interroger sur le féminin, le masculin, les archétypes féminins notamment, de manière annexe qui n'avait rien à voir avec le conte, mais qui nourrissait aussi ma réflexion. Puisque, en fait, j'ai décidé de raconter ce conte avec deux axes. C'est celle de déchristianiser le conte et celle de m'intéresser au patrimoine, patriarcat aussi, c'est pas la même chose, et matriarcat. Voilà, c'est mon axe pour raconter. J'étais en train de vous raconter, je m'aperçois que j'ai zappé ça, sur le film de Sébastien Lodenbach. C'est que donc en 2000, il avait voulu faire ce projet, ça n'a pas abouti. En 2015 ou 2016, je crois que c'est en 2015, il s'est retrouvé avec sa compagne dans la Villa Médicis à Rome, un petit peu désœuvré, et ce conte lui est revenu et il a décidé de le mettre en animation lui tout seul. Donc, ce n'est que ses dessins, donc ce n'est pas du tout dans un processus habituel de la conception d'un film d'animation. Et pour ce faire, il n'a pas été relire les contes. Il n'a fait que par le souvenir qu'il en avait, ce qui est aussi intéressant parce que le souvenir avait fait qu'il avait changé tout ce qu'il avait envie de changer dans sa tête et que c'est comme ça qu'il livre ce conte. Donc moi, j'ai trouvé aussi intéressant d'aller analyser sa manière de nous transmettre le conte avec ce qui lui était resté. Et lui, il voulait travailler sur le féminin. La phrase phare un petit peu de son film, c'est qu'il vaut mieux être une femme libre plutôt qu'une princesse aux mains coupées, enfin handicapée, quoi. Donc voilà, c'était ça. Il a aussi pris vraiment l'option de la nature et puis aussi celle de la paganisation en relation avec la nature, bien évidemment. Donc moi, ça m'intéressait bien puisque je cherchais avant tout à déchristianiser le conte de Grimm. Voilà, je vous ai donné un petit peu l'état d'esprit que j'avais quand j'ai commencé à travailler mes versions. Donc mon axe, patrimoine, matriarcat, homme, femme, qui était là, plus qu'est-ce que les autres en ont fait, comment trouver ma propre version pour que moi je trouve ma logique pour raconter le conte. Alors, j'ai fait le travail de base, c'est-à-dire de comparaison de versions, où très vite j'y réfléchis sur les personnages, sur les lieux. Et sur les actions, bien évidemment, c'était ça principalement qui orientait pourquoi, pour finalement, je suis venue, la dernière fois que je suis venue au CMLO, je leur ai emporté un carton en base de PowerPoint. Aujourd'hui, je viens avec une carte de compte, parce que voilà, c'est ma manière de travailler, j'étais institutrice avant, peut-être que c'est ça, mais j'ai besoin de manipuler, donc je vous montrerai la carte du compte que j'ai faite tout à l'heure. Pour créer ma version. Donc, chez Grimm, on part d'un meunier. C'est pas rien, c'est un meunier. Déjà, toujours dans mon axe, meunier, moulin, qu'est-ce que c'est dans la société? Qu'est-ce que ça représente dans la société? Ah, c'est quand même un patrimoine, puisque je travaille sur les patrimoines. Le moulin est un lieu important, un lieu qui était souvent reculé, qui était souvent, mais en même temps, empreint de culture, parce que tout le monde y venait, et un lieu où il y avait la nourriture hein, qui était faite, et puis on avait l'habitude de dire, si le moulin tourne rond, ça tourne rond, et quand il tourne plus rond, ça ne tourne plus rond. Là, on commence chez Grimm avec un moulin où le père est fauché, il n'a plus d'argent, donc c'est que le moulin ne fonctionne plus. déjà là, j'étais dans une, j'avais déjà beaucoup à faire avec ça chez Grimm ou chez Clarissa Pinkola Estes. C'est pas expliqué pourquoi. Chez Sébastien Lannenberg, la rivière ne coule plus. Lui, il y a un aspect écologique là-dedans. La rivière ne coule plus, le moulin ne peut pas tourner. Ah, ben mon moulin, il est comment? Il est un moulin à eau ou un moulin à vent? Ce n'est pas la même chose. Olivier Py prend un moulin à vent. Connexion avec les dieux, avec le ciel, point de refuge de la jeune fille sous les ailes du moulin, parce qu'il en fait une chanson dès le départ. Moi, très vite, il m'est apparu que c'était un moulin à eau. Je ne vais pas tout vous détailler, je n'aurai certainement pas le temps de toute la même chose, mais enfin, voilà, ça me semblait évident que c'était un moulin à eau et que l'eau coulait quand même encore. Le père étant fauché, je reviens chez Grimm, il part dans la forêt et là, il va pactiser avec le diable parce qu'il va couper du bois dans la forêt, il va rencontrer un vieil homme, un étranger, il ne sait pas qui c'est. Et le vieil homme va lui proposer la richesse contre ce qu'il a derrière le moulin. Lui, il pense que c'est son pommier. On a vu ce matin que le pommier, ce n'était pas anodin non plus. Hein. Et puis, l'objet, c'est donc le fait que le pommier donne aussi à manger. On peut vendre les pommes. Voilà, c'est important. Chez Pinkola Estes, c'est la même chose. Après, il rentre à la maison et sur le film aussi, c'est pareil. Hein, le père, cette fois-ci, va chercher de la nourriture, pas du bois, mais de la nourriture. Mais il va aussi dans le bois. Il revient et ça, c'est l'épouse qui vient à sa rencontre chez Grimm, qui constate simplement que les coffres sont remplis, les boîtes sont remplies. Chez Pinkola Estes, elle en fait un peu plus parce que ça devient un peu fantastique, parce que tous les habits se transforment en habits précieux et autres. Dans le film, je veux dire ça sera plus simple, c'est pareil, c'est la mère qui révèle le fait que ça soit le diable. Ah, voilà un nouveau personnage, l'épouse. Gros questionnement aussi pour moi, qui est cette épouse, quel est le rôle qu'elle a dans la maison, quel est le rôle qu'elle a dans un moulin, quel est le rapport qu'elle a avec sa fille, quel rapport elle a avec son mari. À partir de ce moment-là, il y a eu toute une réflexion sur ce rôle de la mère qui finalement prend que quelques lignes dans le conte, puisqu'on n'en parle qu'à ce moment-là chez Grimm et chez Pinkola Estes. Dans le film, la mère va avoir un autre rôle puisqu'elle va aider sa fille. Elle va vouloir qu'elle se lave alors que le diable avait interdit qu'elle se lave et que le mari va lui interdire de laver la fille et elle va se faire manger par les chiens. Donc là, on voit tout de suite que la mère, elle n'a pas du tout un rôle équivalent puisqu'elle elle est en aide de sa fille. Donc moi, je me posais la question quel est son rapport avec son mari. Donc on est vraiment dans le patriarcat, elle est dépendante de son mari, elle fait ce qu'il veut, elle est dans le moulin, elle est enfermée, j'ai pris cette option-là. Elle n'a pas de relation maternelle avec sa fille puisqu'on n'en parle plus après, elle ne vient pas en aide, on n'en parle plus du tout. Voilà l'option que j'ai prise. Ceci dit, sa fille, le diable va revenir chercher son dû. Alors, dans les trois versions, c'est 3 ans après. Dans les deux versions premières, c'est 3 ans après. Dans l'autre version, c'est le lendemain. Ah, question de temps encore. Qu'est-ce que c'est que ces fameux 3 ans? Alors ça, moi, je n'ai pas réussi à répondre encore. Pourquoi 3 ans? J'attends des réponses. Pourquoi c'est 3 ans à attendre? Clarissa Pinkola Estes dit que c'est le temps de maturation de la fille, etc. En tout cas, le diable revient. J'ai essayé de faire plus rapide sur la trame parce que sinon, je pense que je vais rentrer dans tous mes questionnements et je pense qu'on n'avancera pas bien vite. Mais il y a le personnage de la jeune fille qui, chez Grimm, est vraiment dans la foi totale puisque c'est une vierge pieuse, sans péché, c'est bien insisté. Chez Pinkola Estes, elle est juste vierge vierge et douce, c'est sa manière de déchristianiser. Et dans le film, c'est une jeune fille qui est tout le temps dans son pommier, qui a une enfance heureuse, qui n'a pas ce côté de vierge. Donc la jeune fille arrive, et là, il y a la scène avec le diable qui vient chercher son duc, qui est pour moi une scène très, 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 très importante, puisqu'il ne va pas pouvoir l'approcher du fait de sa pureté. Mais pas seulement. Il y a aussi un cercle qui est fait autour, qu'elle fait elle-même, un cercle de craie qui est fait autour d'elle, qui est repris dans les trois versions, surtout dans les deux premières, et le fait de se laver et de se mettre une robe blanche. Donc là, on est complètement dans le côté chrétien du conte chez Grimm, de cette jeune fille vierge. En même temps, le cercle de craie, c'est quelque chose qui existe dans la sorcellerie depuis bien longtemps, c'est quelque chose qui existe dans à peu près toutes les coutumes chamaniques et autres, où on a des cercles de protection. Et pour moi, je voulais savoir comment elle savait ça, comment elle était capable de se laver, de se mettre en blanc, par exemple, qui repousse les esprits, pas seulement chez le côté chrétien, et pourquoi elle fait ce cercle. Qui est-ce qui lui a transmis? Donc, c'est là où je me suis posé les questions. La mère qui n'est pas présente, est-ce qu'elle n'aurait pas, parce que de toute façon, c'est une transmission de femme, et là, je rentre dans le côté matrimoine de ce que je veux travailler, est-ce que la mère, parce que c'est des connaissances que les femmes ont, ne l'aurait pas transmis à sa fille? Est-ce que, de toute façon, elle n'aurait pas reçu un enseignement d'autres femmes? Ou est-ce que ce n'est pas simplement l'instinct féminin qui l'a fait agir? Voilà, c'est la question que je dois me poser à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, elle fait des protections pour que le diable ne puisse pas la toucher. Il vient une première fois, il ne peut pas l'approcher, il demande à ce qu'elle ne se lave plus. Chez Grimm, il revient le lendemain, elle a tellement pleuré que ses larmes l'ont lavée. Chez Pinkola Estes, elle laisse un temps où la fille devient sauvage, puisqu'elle travaille cette femme sauvage, donc elle laisse un temps que ses cheveux deviennent sales, crasseux et autres, mais il revient, il ne peut pas la toucher parce qu'elle a quand même beaucoup pleuré sur son corps, et notamment ses mains sont pures. Dans le film, il revient le lendemain, elle pleure simplement, c'est un petit peu moins développé. Le diable revient donc le lendemain, il demande au père de ne pas laver. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le film, la mère va intervenir, elle va se faire manger. Dans les autres, la mère n'intervient pas. Le diable, de nouveau, ne peut pas la toucher. Il revient une troisième fois où il demande à ce que les mains soient coupées. C'est là l'acte a lieu à ce moment-là, parce que sinon, il ne pourra pas l'approcher. Mais elle pleure tellement sur ses moignons que finalement, il ne va pas pouvoir l'approcher. Voilà les premiers éléments. Des éléments déjà bien riches pour travailler sur le patrimoine, l'autorité du père vis-à-vis de sa fille, d'autant plus qu'au moment où elle doit se faire couper les mains, elle va dire, puisque je suis ton enfant, vas-y, coupe-les. Donc, est-ce qu'elle se met à l'autorité de son père en tant qu'enfant, ou est-ce qu'elle sait que son père va être pris par le diable si jamais elle ne se coupe pas les mains? Ça, c'est chez Grimm, elle va être prise par le diable si jamais. Donc, est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'elle est prête à sauver son père? Donc, elle est déjà, je dirais, initiée au niveau supérieur, puisqu'elle est capable de voir que son père va être pris, donc elle va le sauver. Chez Pinkola Estes, c'est pire que ça, c'est que le diable promet de faire mourir le père, la mère et tout ce qu'il y a autour. Donc là, c'est même pour sauver la société, je dirais, qu'elle accepte de se faire couper les mains. Alors, est-ce simplement l'autorité ou est-ce que c'est pour tout ça? Dans le film, elle se soumet simplement en tant qu'enfant. Voilà, tout ça, ça a donné des questionnements sur comment ça allait se passer. Et qui m'a permis. Et je ne vous ai pas parlé du personnage du diable. Le personnage du diable, personnage fortement christianisé, évidemment, et en même temps, le diable fait partie de la croyance populaire. Il est passé dans notre façon de parler, donc il n'est pas que chrétien, même s'il est beaucoup axé là-dessus. Pinkola Estes le nomme vieillard, boiteux, vieil homme, mais on sait quand même que c'est le diable. Et il est nommé aussi comme ça dans le film, mais il a une qualité qui m'a beaucoup intéressée, c'est la qualité de métamorphose. Qui existe chez le diable et que Sébastien Loddenbach a utilisé. Moi, je devais me poser la question, je vous ai dit, je dois déchristianiser, comment faire? Je ne voulais pas dire le mot diable, qui est le diable alors? C'est là où on rentre dans tout la question de l'ombre, du noir, de toutes les choses négatives qui nous arrivent dans la vie, de tout ce chemin-là, et qui est primordial dans le conte, puisque c'est à chaque fois le diable qui va mettre la jeune fille en action, qui va la faire avancer pour accéder à ce qu'elle est vraiment, femme entière et rayonnante, je dirais. Donc, je n'ai pas encore complètement trouvé comment je vais le qualifier, mais pour moi, il est toutes ces ombres, toutes ces... C'est Sébastien Loddenbach le prend beaucoup dans ce film. Il l'associe à des corbeaux qui passent, il l'associe à des métamorphoses de monstres, mais même de jolies femmes ou autres. Cette idée-là me plaisait bien et j'aime bien rapprocher voilà, de tout ce qui pourrait nous faire dans notre imaginaire collectif penser au diable. Il y a aussi les animaux, les serpents, ce genre de choses. Mais pour moi, dans ma... Alors là, voilà, c'est comme ça que je vais le porter. En tout cas, c'est toute l'ombre, en fait. Le diable, c'est l'ombre. C'est mais parfois, l'ombre nous fait aller vers la lumière et que sans ombre, il n'y a pas de lumière. C'est comme ça que je vais l'aborder. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup servi dans ce motif-là. Je passe un petit temps hein, sur cette première phase du conte, mais c'est aussi cette histoire de larmes. Dans le côté chrétien, les larmes sont très importantes. On a beaucoup la rédemption avec les larmes, le pardon avec les larmes sont là. Mais dans la psychanalyse aussi, on dit que pleure un bon coup, ça te fera du bien, hein, on est d'accord, donc c'est important. Et en tout cas, j'ai vu qu'à ce moment-là, les larmes étaient importantes. C'est pas pour rien qu'elle pleure sur ses moignons et que le diable ne peut pas l'approcher. Donc pour l'instant, ça n'était juste que pour moi une importance et je ne savais pas laquelle elle prendrait. Et vous allez voir plus tard qu'elle va prendre beaucoup d'importance pour moi. La fille choisit, une fois qu'elle a les mains coupées, son père lui propose la protection dans la richesse, il lui propose de vivre dans un château ou de vivre dans une chambre, enfin de subvenir à tous ses besoins matériels. Et là, elle dit non, quand même. Pour une femme qui, soi-disant, n'est pas en action, excusez-moi, elle dit non. Donc ça, pour moi, c'est un point important où peut-être que je commence à avoir des réponses sur sa façon de s'être fait couper les mains. Je veux dire par là qu'elle est peut-être beaucoup plus initiée qu'on pourrait le croire, beaucoup moins naïve que là-dessus. C'est que là, elle choisit de ne pas vivre dans cet endroit-là et de partir pour quémander, pour être une mendiante. Hein, dans les versions de Grimm, elle verra bien des gens. Mais aussi parce qu'on ne lui a pas apporté. Ses parents étaient défaillants. Ils n'ont pas pu, ni sa mère ni son père, n'ont pu lui apporter ce que normalement des parents apportent. Donc, elle part. Chez Grimm, elle va prendre des chemins et arriver assez rapidement dans un verger qui est entouré par de l'eau. Chez Pinkola Estes, elle va passer par la forêt, elle va avoir toute cette phase où elle va commencer à redevenir animale, femme sauvage, puisqu'elle va chercher à manger, elle va avoir ses cheveux, il y a la description, voilà, ses cheveux deviennent brindilles, il y a le côté végétal et animal qui reviennent chez elle de la nature. Et dans le film, elle repasse aussi par la forêt. Dans mes propres souvenirs, elle passait aussi dans la forêt. Moi, je m'en souvenais, j'avais de souvenirs de conte, c'était ça. Donc, il y a un côté intéressant là-dessus. Elle arrive devant ce verger. Il y a une douve chez Pinkola Estes, il y a le verger qui est entouré d'eau qui va avoir des écluses qui vont pouvoir les ouvrir. Donc, c'est quand même quelque chose de travaillé. Ce n'est pas une rivière. Alors que chez Sébastien Lodenbach, là, c'est une rivière. Pour le passé, c'est là un motif très, très fort, très chrétien. On est à un moment du conte bien, bien ancré. C'est qu'elle va prier tellement à la fin. Elle va prier le Dieu. Pinkola Estes n'a pas pu s'empêcher de la mettre à genoux quand même, tellement elle avait faim. Donc, même si elle ne dit pas qu'elle prie, mais en tout cas, c'est la faim qui va faire venir. Et dans les deux cas, dans les deux premières versions, c'est un esprit, c'est un ange, bien évidemment, enfin, bien précisément, je veux dire, dans la première version de Grimm, et c'est un esprit blanc. C'était sa manière de déchristianiser en disant esprit blanc à la place d'ange. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment déchristianisé. Mais bon, voilà, c'était sa manière de déchristianiser. Et là où ça devient très intéressant, c'est dans le film. Dans le film, là, c'est une rivière qui bloque avec le verger. Elle doit passer la rivière et elle va essayer de nager. Mais comme elle n'a plus de main, elle n'arrive pas à nager. Donc, elle va se noyer et elle va atterrir. L'image est magnifiquement belle entre la poitrine d'une déesse qui va se dire, ah, celle-là, elle n'a pas dû vouloir se noyer, est-ce que tu veux vraiment vivre ? Elle dit qu'elle veut vivre, et donc la déesse de l'eau la ressort et va la poser à côté d'un poirier dans le verger. J'ai été immédiatement séduite par cette déesse, que je trouvais parfaite pour déchristianiser, mais c'est qui cette déesse ? C'est qui ? J'allais pas raconter une histoire où je ne savais pas qui était cette fameuse déesse au fin de nom avec sa magnifique poitrine, quoi. Alors bon, moi j'ai habité beaucoup en Guadeloupe, Afrique, il y a Maman Dilo là-bas, je la connais bien cette déesse-là, mais c'était impossible. Moi je suis en France, en Europe, pour raconter mon conte, je ne pouvais pas trouver quelle déesse j'allais trouver en France et comment j'allais pouvoir déchristianiser à ce moment-là. Et c'est là que les larmes, pas me sont venues, mais me sont revenues. Parce que à ce moment-là, j'ai cherché, ok, les larmes émotionnelles, on verse les larmes, ok, par rapport aux chrétienté, mais quelle était la déesse européenne qui était invoquée par les larmes ? Et là, je suis tombée sur Artémis. Ah, chouette, Artémis qui débarque. À aucun moment, je vais parler d'Artémis dans mon conte. À aucun moment, que les choses soient claires. Mais moi, je sais que c'est Artémis qui va venir. Mais ce n'est pas Artémis qui va venir. Artémis, elle va envoyer quelqu'un. Qui sait qu'elle va envoyer ? Alors, Artémis, elle a travaillé, elle est avec des animaux sauvages, dont le cerf. Alors, je trouve que c'est beau, le cerf qui va... Enfin, beau, attention, hein, je ne fais pas que mes versions parlent beau, je vous l'ai dit, parce que moi, la déesse, je la trouvais belle, mais ce n'est pas que le beau. Mais là, c'était justifié pour moi. Elle commence à nager. Elle n'y arrive pas, elle est mutilée, elle ne peut pas s'en sortir par elle-même. Là, il y a un cerf qui arrive. Vous ne saurez pas que ça vient d'Artémis. Moi, je vous le révèle, je vous le dis, mais vous ne le direz à personne. Hein. OK ? Voilà. Et donc, le cerf vient. Et là, je lis une interview de Sébastien Lodenbach qui explique que pour son film qu'il a fait tout seul dans sa villa Médicis, il voulait faire intervenir un cerf, comme un peu dans La Princesse Mononoké, un peu. Mais que d'un point de vue graphisme, parce qu'il faisait des dessins très très vite, il devait faire 15 secondes de film par jour et tout seul, c'était trop compliqué, donc il a eu cette idée de déesse et c'est comme ça qu'il l'a mis dans l'eau. Voilà, et voilà, et donc je me dis, bah oui, quelque part, voilà, je n'ai pas été la seule à avoir cette idée, mais aussi. Voilà, bon, bref, voilà, donc moi je justifie comme ça. Elle arrive donc dans le fameux verger, on l'a vu ce matin, le verger qui est l'Éden inversé, hein, parce que là, elle cherche à rentrer dans le verger. Je ne vais pas m'apesantir, surtout c'est symbolique, mais le pommier, le poirier, tout ça, c'est très important. Elle va aller manger comme un animal, elle va grappiller la poire et elle va être vue chez les Grimm. C'est le jardinier qui va la prendre pour un esprit, puisqu'elle est accompagnée de l'ange en même temps. Et c'est la même chose chez Pinkola Estes, sauf que, voilà, un peu... Ça ne dit pas que c'est chrétien, mais c'est la même chose. Et là, c'est le jardinier dans le film qui la voit aussi. Mais le roi arrive très, très vite. Et ça se passe en une soirée pour eux. Alors que dans les deux premières versions, ça se passe en deux soirées. La première fois, c'est le jardinier qui voit. Le lendemain, le roi va compter ses poires. Ce n'est pas rien de compter ses poires. Ah, compter ses poires, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Dans l'axe de travail que j'ai, c'est-à-dire matriarcat, patriarcat, Et bien là, je me dis, l'homme, il doit nourrir, il est dans son. Il est, c'est souvent un terrien, enfin, dans le côté terrien de l'homme. Attention, hein, quand je parle d'homme et de femme par rapport à la conversation de ce matin, je considère quand même que tout ce compte, c'est aussi sous l'aspect jungien, c'est-à-dire que tout ça, c'est nous-mêmes et c'est toutes nos parties de nous, nos parties masculines, féminines. Mais je les qualifie dans mon propos d'homme, de femme. Donc le roi, il a ce verger. Il va, dans la deuxième soirée, revenir chez Grimm avec un prêtre, chez Pinkola-Estès avec un magicien. Bon, facile un petit peu, hein, prêtre magicien, mais enfin voilà. Et dans le film, avec personne d'autre, le roi, il arrive, il tombe directement amoureux, il lui dit, hop, viens directement au château. Moi, qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Le jardinier prend une place prépondérante dans le conte de Sébastien London Park, dans la manière dont il a abordé le conte, puisqu'il n'y aura pas de mère, de vieille mère, de la reine-mère, la mère du roi n'existe pas, et que ça sera le jardinier qui sera l'aide pour pouvoir la faire partir dans le second cycle dans un deuxième fuite. Et il va même à ce moment-là lui donner des graines. Donc le jardinier a toute son importance. J'aimais bien aussi ce côté, je vous le dis là maintenant, mais j'aimais bien ce côté que le jardinier allait donner des graines. Je trouvais ça joli. Et vous allez voir que je ne peux pas garder forcément ce que je trouve joli. c'est comme ça. Et le magicien, le prêtre, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, il se pose la question, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Est-ce qu'elle est divine ou est-ce qu'elle est humaine? C'est ça la vraie question. Comment je vais répondre à ça sans y mettre le côté chrétien, foi, etc. Ben moi, j'ai été vers l'alchimie. C'est de l'alchimie. On perd la notion du temps. Quand le roi va rencontrer la femme, c'est ce moment-là où elle ne sait pas si elle est vraiment humaine ou pas, parce que c'est un moment hors du temps. C'est un moment vraiment où on ne sait pas où on se situe. La rencontre de deux êtres, où on ne sait pas voilà ce qui se passe à ce moment-là. On se demande si c'est réel ou pas. On se le dit d'ailleurs dans la vie quotidienne aussi. Est-ce que c'est vraiment vrai quand on a une rencontre? Et par les lectures, parce que j'ai aussi nourri ma lecture de l'étude qui avait été faite de la jeune fille sans main, la lecture psychanalytique du conte de Grimm oh là là, il a un nom, de Wehrmann, voilà, Eugène. J'ai été chercher un petit peu, j'ai relu aussi ce que Clarissa Pinkola-Estès disait sur ces trois personnages, le prêtre, le père et le jardinier. Et finalement, j'en suis arrivée au fait que le roi a ces trois archétypes-là en lui. C'est-à-dire que à la fois, il a ce côté spirituel, enfin, en tout cas spirituel, qui lui permet de cette rencontre alchimique avec cette femme. À la fois, il a été initié pour moi par sa mère, qui va avoir un rôle prépondérant, vous allez voir dans la version que j'ai décidé de faire. Donc, cette initiation me ramène encore au matrimoine et au patriarcat, matriarcat. D'ailleurs, je ne vous ai pas défini les définitions que je mettais derrière, je les spécifierai plus après, parce que c'est important de bien qualifier les mots qu'on utilise. Et à la fois, c'est lui qui s'occupe du verger, c'est lui qui est là pour nourrir, donc c'est lui quelque part, en quelque sorte, le jardinier, en tout cas le gérant du jardinier. Donc en fait, moi j'ai réduit les personnages, il y a le roi et il y a sa mère. Attention, dans le film, il n'est pas appelé roi, il est appelé prince. Nouvelle question pour moi, est-ce que c'est un prince ou est-ce que c'est un roi? Comment je vais l'appeler? Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Donc qu'il va amener cette femme dans un château. Après, encore une fois, qu'est-ce que c'est que le château au niveau social, au niveau patriarcat, matriarcat, patrimoine, matrimoine? Qu'est-ce que c'est que le château? Donc, c'est en me questionnant tout ça, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. Je ne peux pas vous expliquer tout le cheminement que j'ai pu avoir là-dessus, mais j'en suis arrivée à cette conclusion, c'est qu'à ce moment-là du conte, il représente à la fois ce que lui a transmis sa mère, à la fois ce côté nourrir. Il dit d'ailleurs dans le conte, viens, je vais te prendre au château et tu ne manqueras plus de rien, je vais m'occuper de toi. Et il va la ramener au château. Et puis, donc, j'en mets ces trois personnages. La jeune fille arrive donc dans le château. un château qui est vu à ce moment-là comme un endroit de pouvoir, pouvoir de l'homme sur la femme. Très vite, il va lui offrir des mains en argent, relation à la société, le fait de, même si elle n'a pas de main, on va retirer ça par le fait qu'elle ait des mains en argent. Sébastien Landenbach, il met des mains en or, absolument pas justifié pour moi. L'argent a tout lieu d'être, c'est une femme. Il y a un conte qui existe sur la Lune qui se fait couper ses rayons, c'est les rayons de Lune. Enfin, voilà, c'était impossible que ça soit en or. Donc ça a été vite, vite, voilà, plié, merci. Et il va partir. Une fois qu'elle a cette relation sociale dans le château, un statut social, elle est mariée à un premier mariage, que le film, j'ai beaucoup aimé ça, cette partie-là dans le film où on voit des mains qui s'occupent de la jeune fille. Je trouve ça très beau, parce que oui, elle ne peut pas s'occuper d'elle-même. Elle est dans un stade où elle ne peut pas s'occuper d'elle-même, donc on voit des mains de partout qui s'occupent, qui la lavent, qui l'aident, etc. Et c'est ça que le château va lui permettre, d'avoir une vie à peu près normale, mais une vie de château reclus dans ce lieu de refuge, qui à ce moment-là, le château, c'était un lieu de refuge pour elle. Le lendemain, dans le film, quelques temps plus tard, chez Pinkola Estès et un an plus tard chez Grimm, le roi doit partir à la guerre. Le fameux départ, protection des terres, rôle des hommes à aller protéger leurs terres, à conquérir des terres aussi. Je ne vous le répète pas à chaque fois, mais je vous dis toujours avec mon axe matrimoine-patrien, il y a toujours ça hein, dans ma réflexion. Donc voilà, il va conquérir des terres, il part loin, il voit aussi les horreurs de la guerre. Il est aussi. J'avais lu une phrase très belle où lui, voilà, il va prendre des vies alors qu'elle, elle est enceinte et elle va donner vie. Donc il y a cet aspect-là que je trouve très, très intéressant à ce moment-là du conte. La jeune fille est enceinte, elle donne naissance dans les versions à chaque fois à un petit garçon, donc ce n'est pas de jumeaux cette fois-ci. Et le père, le roi a confié dans les deux premières versions à sa mère de donner les messages de la naissance au jardinier dans la troisième version, et les messages vont être intervertis par le diable qui va endormir les messagers près d'un ruisseau dans une version, près d'une rivière dans une autre version. Se pose alors la question du message, du messager, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente exactement? C'est là où, par diverses, et notamment l'apport psychanalytique et autres, moi j'y ai vu, justement, elle était abri dans son château, elle était dans une certaine façon de penser, lui il était à la guerre avec d'autres horreurs, d'autres réalités, et à ce moment-là, eh bien, leur communication était coupée, elle était empêchée. Donc les messages, on ne se comprend plus. C'est le moment dans le couple où on ne se comprend plus. Le diable sera toujours là pour moi, que je ne qualifierais toujours pas de diable, mais comme justement, voilà ce qui nous arrive, où bah, ça marche pas, ça, on va dans le noir, on est dans l'ombre, voilà, il y a une dupe encore à ce moment-là des messages qui arrivent. La mère est forcément impliquée à ce moment-là. Puisque c'est elle qui doit écrire les messages, puisqu'elle n'a plus de main, ma jeune fille. À un moment donné, je me suis même posé la question, mais pourquoi c'était pas elle qui les écrivait? Mais oui, suis-je bête, elle n'a pas de main. Enfin bref, c'est pour vous dire que des fois, voilà, Non, mais c'est vrai, voilà, c'est des trucs. Et la mère, pour moi, va prendre un rôle primordial à ce moment-là, que j'ai trouvé plus chez Clarica Pinkola Estés, c'est-à-dire que cette rôle de vieille femme, de la transmission. Elle obéit à son fils, mais en même temps, elle protège la jeune fille. Son fils va lui demander de tuer la femme et l'enfant et d'avoir une preuve. Chez Grimm, elle va faire tuer une biche. Chez Pinkola Estés, elle tue elle-même une biche. Dans le film, c'est pas, on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas cette partie-là. Et ce n'est pas rien qu'il demande, c'est des yeux et une langue. Alors pour moi, à ce moment-là, c'est important que ce soit la mère qui va tuer la biche, et la biche très importante aussi, et la langue et les yeux aussi, et qu'elle permette à la jeune fille de s'échapper parce que son mari, en quelque sorte, est devenu un prédateur. et qu'il faut qu'elle. Donc là, pour moi, il y a déjà un rôle de femme de protéger une autre femme parce qu'elle est en danger, tout simplement, et qu'il l'envoie, elle l'envoie dans la forêt, là, en l'occurrence. Chez Grimm, c'est marqué « va dans le vaste monde et ne reviens jamais ». Chez Pinkola et Tess, plus dans la forêt. Le départ, chez Grimm, l'enfant est mis dans le dos. Pinkola et Tess à la poitrine. Moi, je trouve ça plus logique qu'elle puisse allaiter son enfant. La voilà partir avec son enfant parce qu'elle doit fuir le mari qui veut la tuer. La mère a gardé, comme son fils lui avait dit, d'avoir des preuves, a gardé les preuves, mais ce sont des fausses preuves puisque c'est la biche. La femme se retrouve donc à partir dans la forêt. Ah, j'avais toujours ce motif de la femme qui retrouve ses mains avec la rivière et que celui-là, j'arrivais pas à le lâcher, quoi. Je pouvais pas. C'est là où j'ai été voir d'autres versions, comment ça se passe et pourquoi. Et est-ce que c'est vraiment justifié dans le conte? Est-ce qu'il ne faut pas que je m'en fasse quand même, que je me dise que non, elles vont repousser plus tard. Alors, à ce moment-là, j'ai dû aller à la fin du conte, voir à quoi servait, comment repousser les mains. Comment repousser les mains chez Grimm, à force de côté pieux et de labeur, ses mains ont repoussé. Comment repousse les mains chez Pinkola Estes, à force d'être. C'est quoi qu'elle dit exactement, elle? Mais c'est un peu la même chose. Hein, elle n'est pas pieuse, mais elle se repose bien comme il faut. Ah oui, ses mains reposent petit à petit. D'abord, ils sont comme celles d'un bébé, après, comme celles d'une jeune fille, et après, comme celles d'une femme. Voilà. Donc, elle retrouve sa féminité. C'est ça qu'elle veut vraiment mettre en valeur. Chez Sébastien Landenbach, alors là, très intéressant, les mains repoussent quand le mari revient. Le pousse quand elle revient parce qu'elle a peur de lui et qu'elle veut, elle devait être tuée quand même par lui. Et elle veut se protéger, donc elle va, elle prend une hache pour aller le tuer parce qu'elle voit le mari arriver. Il a beau lui dire « Non, mais je suis là pour vous et pour votre amour. » Elle veut le tuer et c'est son fils qui lui dit « Maman, tes mains !» Et comme ses mains ont repoussé, elle ne tue pas le mari. Elle s'arrête pour regarder ses mains. Donc, très intéressant de voir ça. Ce qui m'a posé aussi la question, on en a parlé ce matin, ok, elle se met en repli pour attendre son homme, mais quand même un homme qui voulait la tuer, je vous rappelle. Elle, lui, la pose cette question-là. Comment elle sait qu'il ne va pas la tuer? Comment va être la reconnaissance? Comment il va être sûr que ça va être une vraie rencontre? Donc, je me suis posé toutes ces questions-là. Je reviens au bord de ma rivière parce que je suis partie dans la forêt, au bord de ma rivière, où moi je veux vraiment qu'elle repousse dans la rivière parce que c'est ce chose-là, dans le sens que ça faisait quelque chose qui était important et qui pourtant, je peux encore changer, évoluer, j'ai rien de définitif dans ma version parce que ce matin, Marc disait elle n'est pas apte à être mère encore. Moi je trouve que cet instinct, en tout cas au moment où j'en suis de mon travail, cet instinct maternel, c'est ça qui va lui faire repousser les mains. Donc elle part de la maison, elle va jeter ses mains en argent, donc elles ne seront pas gardées comme preuve comme quoi c'est bien elle. Elle les jette dans la rivière. Son enfant, au moment où elle veut boire, tombe dans l'eau et parce qu'elle veut le rattraper, ses mains repoussent. Mais c'est juste son instinct maternel. À ce moment-là, c'est un moment très chrétien, elle aussi, dans le conte de Grimm. Elle prie, et c'est Saint Machin ou Saint Bidule qui lui viennent en aide. Donc, moi, qui est-ce qui va venir? Ça ne peut pas être que l'instinct maternel. Qui? C'est facile. Artémis, elle est toujours avec moi. Elle a des naïades qui sont leurs super copines, et les naïades, elles ont la faculté de guérir, c'est sûr. On peut, l'eau est guérissante grâce aux naïades. Pareil, je ne lui dis pas ça. Je n'en parlerai pas, je ne vais pas dire qu'il y a des naïades qui sont arrivées qui ont fait pousser les mains, mais c'est pour moi justifié dans ce côté mystique. Et c'est à ce moment-là, à la fois dans la lignée de cette maternité, de cet instinct maternel, mais de cet instinct qu'on a aussi de faire venir toutes les énergies pour pouvoir avoir des mains qui repoussent. Et toutes les énergies, on peut les symboliser par la prière, l'ange, le saint, ou chez les Grecs, c'était les naïades qui ont des pouvoirs justement de guérison. Donc, c'est comme ça. Donc, là, je l'assume du coup, ce passage-là, de le garder. Je trouve qu'il est justifié dans ma version pour que ça ne me retire pas à la logique et je peux le garder. Donc, après, aussi intéressant, c'est qu'à ce moment-là, chez Grimm, c'est les anges qui vont la mener à, à cette petite maisonnette ou petite maison chez les Grimm, à cette auberge, pauvre auberge chez Pinkola SS, alors que chez Sébastien Lindenbach, alors là, elle va trouver une maison abandonnée d'un ermite. Et elle va rester seule là-dedans, dedans. Et elle va élever son enfant seule. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, elle aura les graines données par le jardinier et elle va planter les graines toute seule avec ses moignons. Elle va ressaigner avec ses moignons et elle va vivre avec son enfant un moment très, très fort, mais seule. Et ça montre que la femme se développe seule. Qu'est-ce que j'allais choisir à ce moment-là? Qui est-ce qui l'amène? Pour moi, à un moment donné où je choisis de remettre les mains qui repoussent dans la rivière, ça veut dire qu'elle se remet en action. Avoir des mains, c'est de nouveau se mettre en action. Donc là, elle fait un choix qui est de suivre la rivière pour aller jusqu'à sa source. La rivière est très importante dans le film aussi et ça m'a aussi guidée dans ce choix-là. Elle cherche à aller à la source de la rivière, elle suit la rivière et elle arrive. Alors, qu'est-ce que j'allais prendre? La maison d'un ermite abandonné qui se débrouille toute seule, le truc où il fallait que de nouveau je déchristianise, comment j'allais faire? Je vous avoue que je me suis posé beaucoup de questions et c'est là où j'ai eu besoin d'aller chercher d'autres versions pour me nourrir, notamment dans la version de Zalgoum, là, où elle atterrit dans une grotte. Après, j'ai cherché l'ange d'une manière païenne, ce sont les fées, ce sont tout simplement les fées. Donc au départ, ça m'a beaucoup plu, cette idée de fée avec une grotte. Et puis après, bah, voilà, c'est tout un univers qui s'est mis en place pour moi dans mes rêveries, où elle arrive à cet endroit où quelque part, elle va se ressourcer elle-même. D'où le fait que ça soit un conte initiatique très fort pour les femmes, c'est qu'à un moment donné, elles ont besoin de retrouver, alors là, je rentre dans le côté un peu plus psychanalytique, mais de re-rentrer dans leur intérieur et d'avoir une espèce de sororité avec d'autres pour faire tout un tas d'apprentissages et être aptes à montrer toute leur puissance. Puissance qu'elles avaient déjà depuis toujours, mais qu'elle va pouvoir révéler à ce moment-là. Et c'est là où j'ai fait le choix de la faire arriver dans cet endroit où les parcs que j'avais en tête, et puis peut-être la journée de José Mello de la dernière fois où je voyais qu'il y avait des parcs qui arrivaient dans le conte, où j'ai retravaillé. Et puis surtout, moi, je ne voulais pas les travailler avec le sens des parcs, hein, en grec, mais le sens des tisseuses, tisseuses de son destin. Depuis le début, on parle d'un destin. Et on parle de destin quand je parle du diable aussi, c'est de parler du destin, c'est-à-dire que quelles sont les ombres et les lumières qui nous arrivent dans notre vie pour qu'on ait la vie qu'on ait à un moment donné, enfin, à la fin de notre vie. C'est avec tous les malheurs et les bonheurs qui nous sont arrivés. Donc, ces tisseuses-là me semblaient importantes. Et qu'à partir du moment où elle arrive là-bas, bah, qu'elle apprenne tout un tas de choses, et notamment à tisser son propre destin. Donc c'était important pour moi qu'il y ait cette image de tisseuse. Je ne sais pas encore comment je vais les révéler ou pas, mais en tout cas pour moi, elle est dans ce lieu-là, dans ce lieu où elle apprend à tisser son destin avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Elle apprend à se révéler à elle-même, elle apprend tout ça et elle reste donc à cet endroit-là pendant 7 ans, un cycle important de 7, tout le temps de maturation et autres. J'étais rapidement là-dessus, mais bon, je reviens au roi. Lui, il était à la guerre, il revient et il constate sa mère tout de suite veut lui donner les preuves. Bah oui, elle avait à l'autorité du roi et de son fils aussi. Il lui a demandé des preuves, elle lui donne. Mais comme elle voit son fils pleurer, elle voit justement la part féminine de son fils, je dirais, en pleurant. Elle comprend et devant cette histoire qu'elle lui raconte. Alors là, elle décide de lui dire la vérité. Et à ce moment-là, il décide de partir en quête. Dans les 2 premières versions, voilà, qui sont assez similaires, hein, même s'il y en a une qui essaye d'être déchristianisée, il dit qu'il ne mangera plus, qu'il ne boira plus pendant tout le temps, jusqu'à temps qu'il l'ait retrouvée. Alors là, c'est le départ. C'est peut-être à ce moment-là que je vais arriver à... Enfin, non, je ferai après. Mais il part, mais il ne va pas prendre le chemin le plus court pour aller là. C'est d'où l'importance de faire une carte de conte. C'est qu'il ne va pas prendre le chemin le plus court pour aller retrouver la femme. C'est qu'il va devoir faire tout un périple. Et ce périple-là, c'est quand même pendant ces temps où il se passe, et ça, j'ai aimé le lire chez Pinkola Estes, où il redevient homme sauvage. C'est-à-dire que c'est pas rien de marcher pendant ces temps sans boire, sans manger. Donc, en fait, uniquement avec sa foi, pas forcément la foi chrétienne, mais la foi qui va retrouver l'être aimé. Mais tout ça, ça va le faire le rentrer en travail lui aussi, et que c'est pas, il n'y a pas qu'elle qui est en train de travailler sur elle-même. Lui aussi, il a tout ce travail à faire, et qu'il ne la reconnaîtra et qu'il pourra la retrouver que lorsqu'il aura fait tout ce travail-là. D'où, voilà, sinon c'est pas possible, sinon ça sera encore comme les messages qui seront dans la compréhension. Donc il fait tout ce chemin-là jusqu'aux retrouvailles. Les fameuses retrouvailles où je vois le temps qui passe, alors j'essaye d'aller plus vite, mais tout ça pour vous dire qu'il y a l'enfant hein, qui est là quand même. Et moi, je vais travailler aussi tout ce qu'une mère peut transmettre à son enfant, puisque je vous rappelle que je suis dans le patrimoine, donc la transmission orale principalement. Hein. Là-dessus. Donc, la mère va raconter toute son histoire. Et alors, chez les Grimm, il revient, il y a l'histoire du voile, on en a parlé ce matin, mais qu'il met sur le visage, et puis le voile tombe, et elle demande à son fils de remettre le voile sur son père. Alors, je trouve un truc très, très, très drôle, c'est que quand il lui dit « c'est ton père », il lui dit « oh ben non, ça ne peut pas être mon père, parce que mon père n'est que le notre père ». Moi, je trouve ça drôle. Mais voilà, mais c'est pas si drôle que ça, ça montre la transmission. Ça montre la transmission. La mère lui a appris que son père, c'était le notre père, donc la transmission s'est faite comme ça. Et ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une transmission de la mère à l'enfant. L'enfant sait ce que c'est que notre père. Alors moi, il y aura une transmission de la mère à l'enfant, qui sera que la mère, elle aura parlé assez de son père et certainement que ses yeux et sa langue, sa manière de parler seront spécifiques, seront comme une preuve que c'est le père. Puisque lui demandait la langue et les yeux comme preuve, eh bien, peut-être qu'il aura, je ne l'ai pas encore assez pour vous dire, encore une fois, je suis en recherche et en chemin, mais peut-être qu'il aura des yeux tellement bleus et profonds et un petit tic de langage qui lui viendra de sa mère d'ailleurs. Et que l'enfant sera sûr par rapport à ce que sa mère a raconté. Et lui, il verra cette femme avec qui il sentira cette alchimie dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui aura des mains. Donc, ça ne peut pas être elle parce qu'il y a le côté bien... Je ne veux pas qualifier homme-femme, mais lui, il l'a, et qui se dit « c'est pas possible ». Et c'est parce qu'il va rencontrer l'enfant, que l'enfant va lui raconter l'histoire de sa mère, qu'il va pouvoir savoir que c'est elle. Ce qui n'empêche pas que j'ai toujours la question, elle se méfie plus de lui, alors il voulait la tuer, puis maintenant, il arrive, et puis ça y est, c'est tout bon, moi, ça ne me va pas, ça. Alors, j'aime bien le côté la hache qui veut le couper. Ah oui, mais attention, c'est là où l'image, pour moi, c'est l'image encore de cet homme qui part, parce qu'il faut aussi penser que je vais compter ça aujourd'hui, dans un contexte actuel, et qu'on se pose la question du genre, de la féminité masculin, des rôles du père, des rôles de la mère. Elle va le voir arriver. Alors, voilà, je vous livre un rêve, hein, pour l'instant, c'est pas, mais c'est qu'elle va, elle va le voir arriver avec son fils dans la main, et qu'elle sentira tout de suite que, parce qu'il tient cet enfant, et qu'il est vraiment dans le rôle de père, il ne lui vaut plus de mal. Et donc là, voilà. Donc là, dans la version, rapidement, la version de Grimm et Pinkola Estes, c'est ils font un festin. Donc moi, festin des fées. Là, ça y est, on peut se renourrir. Maintenant qu'on a travaillé le spirituel, on peut renourrir le corps, on peut se réincarner, on peut redevenir dans notre chair. Et il rentre après au château. Là de nouveau dans le film, il rentre pas au château. Elle choisit, elle qui a réussi à planter toute seule, je vous ai dit, elle n'est pas avec des anges, elle n'est pas avec des fées, elle n'est avec personne, elle plante et elle vit avec son fils. Une fois qu'ils se sont retrouvés et qu'ils sont conscients de leur amour, ils décident d'aller ailleurs, de refaire leur vie ailleurs. Ah, ce motif me plaisait au départ, je trouvais ça bien. Ah oui, ils vont ailleurs. Non, c'est vrai, ça m'a charmée. Mais après, j'ai réalisé que ça n'avait aucun sens. Puisque ça y est, ils étaient arrivés dans la toute puissance de ce qu'on peut donner. Je vous rappelle que dans la proposition de mon spectacle, il y a marqué « pour un développement durable et humain ». Alors, le développement durable et humain, n'est-ce pas qu'une fois qu'on a accédé au meilleur de soi-même par tout le travail qu'on a pu faire, retourner dans le château, qui n'est plus un lieu de repli, qui n'est plus un lieu de… voilà, mais qui est un lieu, pas de plus un lieu de pouvoir, justement, mais un lieu de puissance cette fois-ci. Et que cette fois-ci, là, ils vont pouvoir se remarier parce qu'il sera vraiment roi et reine. Elle sera vraiment reine. Je vous passe tous les détails que Majesté, quand ils arrivent et tout ça, ça m'a questionné parce que je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Mais tout ça, ça me questionne. Chaque partie du conte me questionne. Mais là, en tout cas, ils vont pouvoir revenir et là, ben, faire rayonner tout. Parce que ça vient de ma philosophie aussi, de se dire, ben voilà, on essaye d'être meilleur. Pourquoi être meilleur? Ben, chez les chrétiens, chez machin, ben, pour moi, c'est pour faire le meilleur autour de nous, non? Enfin, voilà, donc c'est ce que je veux valoriser. C'est pour ça que je l'ai fait quand même rentrer finalement au château, mais cette fois-ci pour que le château devienne un lieu de rayonnement et qu'elle pourra vraiment être reine et lui roi. Et là, puisque je n'ai pas eu le temps de vraiment développer sur le matriarcat-patriarcat, mais cette fois-ci, voilà, ils vont régner ensemble et ce n'est plus lui simplement, parce qu'ils vont former une entité. On peut le rejoindre aussi au point de vue personnel. Si notre côté masculin ou notre côté féminin n'est pas équilibré, ben on est tout simplement déséquilibré. Et là, justement, l'équilibre se refait là-dessus. Alors, je fais ça complètement à l'envers parce que j'aurais dû vous le dire au départ. C'est que moi, ma notion de patriarcat, c'est, il y a plusieurs définitions, hein, il y a vraiment plusieurs définitions, mais c'est le fonctionnement familial dans lequel le père a une influence, l'influence de l'homme. Donc, voilà, et dans le fonctionnement matriarcal, ce n'est pas le fonctionnement de la société matriarcale que j'entends, mais plus que la mère a une influence, une autorité, en fait. Donc, c'est en ce sens-là que je ne l'avais pas travaillé, non pas en sens de pouvoir politique du tout, puisqu'il n'existe pas de ce côté-là. Et c'est là où, quelque part, chacun des personnages, comme par exemple la vieille mère, eh bien, voilà, pour moi, elle n'exerce aucun pouvoir, elle n'est pas reine, mais voilà, elle a quand même une influence sur son fils, pour le pousser à aller dans le verger parce qu'elle a peut-être vu, peut-être qu'elle a vu qu'elle était là. Elle a une influence sur son fils parce qu'elle ne va pas lui obéir alors qu'il faudrait, normalement, si elle était vraiment dans le patriarcat, lui obéirait. Vous voyez, donc c'est toute cette réflexion-là. J'aurais tant à vous dire. La seule chose sur laquelle je voulais terminer, vraiment, c'est pour vous donner, parce que moi, c'est essentiel de travailler avec... J'ai appris ça au CMLO, la carte du compte. Alors voilà, c'est la carte de mon compte et ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Où est-ce que je positionne? Comment je positionne? La rivière, elle n'entoure pas, ce n'est pas des doux, mais la rivière, elle est hyper présente et autres. Donc, rapidement, le moulin, je vous ai dit, un lieu qui n'est pas anodin, un lieu qui est en rapport avec la société aussi. La société qui ne vient pas là, c'est un lieu reculé, un moulin à eau. Dans ce moulin, il y a le meunier qui doit aller en forêt pour aller... la femme, elle est à la maison, hein, bien sûr, parce qu'on est dans ce système-là. Là, il va rencontrer le diable qui ne sera pas le diable, mais moi, des métamorphoses, des énergies, voire même, comme on le disait ce matin, le père lui-même et son côté diabolique, pourquoi pas, justement, qui a des pulsions vers sa fille, mais en tout cas, à réfléchir, mais voilà, il va le rencontrer. À ce moment-là, il y a la jeune fille, je l'ai mis en plus gros, il y a ce côté de pureté, qu'elle maîtrise quand même tout ce qui lui vient de ses intuitions de femme, qui a été, est-ce la question est encore posée, transmise par sa mère ou par d'autres, mais en tout cas qu'elle détient, puisqu'elle va quand même utiliser ce cercle de protection, où il faut quand même être initié pour le connaître, un cercle de protection qui n'a pas ça, et aussi, ah pardon, mince, et aussi le fait de se laver, hein, de la purification par le fait de se laver et le fait de faire les larmes à ce moment-là. Donc, quelque chose d'important. Ah ouais, c'est vrai que ce n'est pas très, très, très bien pour les gens qui sont… je suis désolée, excusez-moi, hein, les gens là, vous voyez que mon vent… Oh, en plus, j'ai débranché quelque chose. Les mains qui vont être coupées, qui sont à la fois masculines et féminines. Moi, j'ai la couleur, voilà, qui sont. J'ai travaillé aussi avec une symbolique couleur pour moi, pour exprimer ça. Les mains qui vont être coupées. La fille qui décide de partir, alors que son père lui propose la richesse d'un moulin, etc. Parce que là, elle s'est fait d'accord couper les mains, mais elle va aller trouver de l'amour. Ses parents qui ont été incompétents, elle va aller trouver ailleurs. Je vois quand même un petit bois, hein, quand même ici. Elle arrive là, la fameuse scène avec la rivière, où là, il y a L'ange qui intervient, bah, donc pour moi, je vous ai dit, c'est le cerf, mais qui est guidé par Artemis, mais pas. Voilà, qui est là. Elle arrive dans le verger. J'ai oublié de vous mettre le pommier là, mais je vous le mettrai. Donc là, il y a le poirier qui est ici, qui est important. C'est pas rien. On retourne dans l'Éden. Et là, il y a le pommier. Il va me manquer quelque chose. Ah, bah, c'est ma jeune fille, elle est là. Elle passe ici, elle arrive ici dans ce verger. Premier soir, pour moi, le château est là. Pour moi, aujourd'hui, de ma réflexion, le château est là. Donc, pareil, hein, tout un truc sur le château. Et il y a la vieille mère qui est dedans. Et la vieille mère, elle voit cette jeune fille en train de manger. Le roi, lui, le roi qui est ces trois entités en même temps, et en même temps, c'est sa mère qui l'a initié. Il n'y a pas de père, hein, on ne parle pas de père dans ce conte. On ne parle pas de les morts, hein, certainement. Donc, il y a ces trois entités qui représentent le roi. Et il va compter ses poires. Il va voir qu'elles sont mordillées comme un animal sauvage. Il regarde la nature, il est proche de ça. Et certainement avec sa mère un peu par derrière. On va la mettre là. Il va à la rencontre de cette jeune fille, rencontre alchimique, comme je vous disais, il lui propose sa protection. Il l'emmène dans le château. Dans le château où là, elle va avoir ses fameuses mains par rapport à la société, par rapport à l'apparence, par rapport à ce que la femme doit être, etc. etc. Elle va avoir les mains. Ah ouais, c'est parce que je sais, la mère, elle est là. Donc, il va avoir ça. Elle va avoir les mains qui vont être là. Et lui doit partir à la guerre. Je le fais partir à la guerre un an plus tard, hein, pas le lendemain, comme dans certaines missions que j'ai vues. La guerre, qui est un endroit particulier où va y avoir du sang, où va y avoir la conquête des terres, d'assumer son patrimoine, etc. Donc, je vais réfléchir là-dessus largement. Et ici, c'est ce moment où va y avoir l'échange après la naissance du fils, qui à la fois fait de la mère et du père, hein. La naissance du fils, il va y avoir des échanges que je qualifierais rouges dans le sens des belles choses, une naissance, prends soin quand même d'eux, même si ce sont des monstres, par le côté noir, tu l'es, donne pour preuve la langue et les yeux et autres. Là, pendant qu'il est à la guerre et que les messages sont corrompus, il va y avoir une connivence entre... où je fais rentrer le côté matrimoine, le côté transmission de la vieille femme sage qui va être là et qui va la protéger, je vous disais, du prédateur et qui va lui dire de s'enfuir. Donc, elle va partir. D'où l'intérêt, pourquoi je... Ce n'est pas pour me répéter, mais c'est pour vraiment vous montrer l'intérêt pour moi de travailler avec une carte. C'est que moi, elle va partir par là. Et avant, non, elle va même partir par là. Elle va jeter ses mains. Donc, les mains ne servent pas de preuve, comme dans les deux premières versions. La preuve, elle va être ailleurs. Elle va arriver là, c'est là où son enfant va tomber dans l'eau. Et c'est là où, de nouveau, va y avoir, pour moi, les Nayan, mais en tout cas, l'instinct maternel, tout ce qu'on est, qui font faire en sorte que ses mains vont repousser. Et comme elle repousse, elle rentre en action, elle suit une source avec son fils. Et ils arrivent là. Vous avez compris que le fils, il était là. Elle arrive là. Et ici, qui est-ce qu'il y aura? Pour moi, il y aura des fées. Les parcs, notamment, étaient avec aussi des fées. Des fées qui vont être comme une sororité, comme un apprentissage, comme la révélation de chacun de nos pouvoirs. Et puis, mes fameuses... Parc, que je ne nommerai pas comme ça, hein, encore une fois, je vous dis simplement la justification de ma version, c'est qu'elle est dans cet endroit de la forêt où elle va pouvoir progresser en tant que femme pour devenir une femme complète et une femme puissante, comme dirait Léa Salamé. Enfin bref, et elle va aussi, puisque les parcs, elles sont là dans le tissage, elle tisse notamment même la mort, elle va apprendre elle-même aussi à tisser sa propre vie, donc être vraiment actrice maintenant de sa vie puisqu'elle est capable de la tisser, quoi. Voilà, c'est là-dessus, ouais, j'ai même fait le métier à tisser pour ma vie. Là, rapidement, il revient de la guerre, il retombe sur sa mère qui, elle, sous son autorité, va lui montrer les preuves. Elle voit qu'il pleure, elle voit tout de l'autre côté que finalement son fils, il a une sensibilité et autres, enfin, voilà, et il va repartir. Mais il ne va pas repartir par là, c'est ce que je vous disais. Lui, il va repartir par là. Il va repartir par là, est-ce qu'il me permet? Et je reviens au film. Dans le film, quand le roi, c'est le prince hein, dans le film, le prince part en quête, il repasse devant le moulin et il voit le père pendu. Moi, je trouvais ça très beau. Enfin, très beau dans le sens, ben, vous me comprenez. Non, très intéressant. Ben, j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'est-ce qu'il devient, ce père? Ben oui, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il devient? Imaginez après ce qui s'est passé. Qu'est-ce que devient la mère? Alors, je ne sais pas s'il va voir le père pendu ou il va voir la mère. Mais en tout cas, il va voir ce moulin qui est un objet du patrimoine. Un objet du patrimoine et qui est peut-être maintenant un lieu maudit. Un lieu maudit parce qu'on raconte que voilà. Quelqu'un s'y serait suicidé et que la mère serait devenue folle, par exemple. Voyez? Enfin, en tout cas, voilà. Il repasse par cet endroit-là. Et il est obligé bah, d'aller dans la forêt. Et c'est là, pendant 7 ans, il va être obligé d'aller dans ses profondeurs, d'aller. Travailler, il va maigrir le roi, il mange plus, il va perdre sa puissance. Et en même temps, ben voilà, il va gamberger tout ça. Et ce qui va lui permettre d'arriver jusqu'à là, tac, tac, tac. Et là, où est mon fils? Il va rencontrer l'enfant qui est en train de jouer par là. Il va le voir, mais elle a des mains. Et ce n'est pas la même personne. Transmission de sa mère de toute l'histoire familiale. Il va raconter au Pierre. Il arrive avec les mains et mains. Il se retrouve. Festin, tac, tac, tac. Ils reviennent au château voir la vieille mère, mais moi, ce n'est pas seulement au château, c'est tac, tac, le château maintenant, il rayonne parce que là, on accède. Le premier mariage n'était pas le vrai mariage de la royauté, d'accéder à la royauté, comme on dit dans les contes. C'est seulement ce mariage-là qui les fait accéder à la royauté, où tous les deux, alors certes, avec leurs spécificités, puisqu'on ne peut pas. Nier que les femmes ont peut-être des. Enfin, et que l'homme. Mais tous les deux rayonnent, tous les deux sont là, et tous les deux, au niveau justement, pas matriarcat, patriarcat, c'est que tous les deux voilà, sont là pour rayonner sur l'ensemble et donner justement par leur développement ben voilà, un développement humain quoi, aux autres choses. Voilà, alors ça aussi, ça représente, c'est important. La lune et le soleil sont super importants pour moi dans ce conte. D'ailleurs, dans les versions, si on regarde dans les mots, elle part à l'aurore, elle arrive la lune l'éclaire dans le verger, tout ça. Donc il y a tout un travail aussi sur la lune et le soleil que je vais faire. Je ne peux pas vous livrer là tout, mais voyez, c'est pour vous dire que c'est le cheminement, comment j'ai réussi. Non pas en exploitant tout un tas de versions, mais simplement avec cette version-là, en me posant des questions. Et j'en suis juste, voilà, je vous livre, comme tu disais si bien, il n'y a aucune vérité, c'est moi que je dois justifier et trouver mes justifications personnelles pour pouvoir porter le conte et la manière dont j'ai le porté. Et pouvoir faire en sorte que pour moi, ce n'est pas un conte horrible pour les femmes. Oui, ok, elle se fait couper les mains, mais combien de fois on s'est fait couper les mains dans la vie, quoi? Et voilà, donc c'est important de le montrer et de le dire. Voilà. Alors, je suis tout ouïe à vos questions. Et je suis désolée, j'ai pris beaucoup de temps. Mais...
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup en tout cas pour le partage de tout l'enseignement en tant qu'artiste et aussi de jeune. Voilà, merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Et juste pour terminer sur le côté artiste, puisque maintenant, enfin maintenant, ce n'est pas encore terminé, hein, ce travail il est loin d'être terminé. Mais une fois que j'aurai fait la recherche du conte, ce sera terminé. C'est là où je vais rentrer dans le côté vraiment artistique. Pour l'instant, je n'y suis pas. Et il y a des bribes qui arrivent.
Et
Et j'aurais envie, voilà, que ce soit la mère, la meunière qui raconte l'histoire, enfin, qui de son point de vue. J'ai envie que ce soit la vieille femme. On voit le conte par rapport à ça. J'aurais envie que ce soit l'enfant
On voit vraiment
et qu'après, et qu'après on reconstruit.
Voilà, ça c'est,
voilà, ça, c'est
dans mes,
c'est dans mon
petit artistique,
petit artistique pour rendre un objet artistique après, qui est pour l'instant un complexe.
Pardon.
Oui. Alors, les questions, doucement, il y en a aussi en visio. En tout cas, tu as de nombreux remerciements et de nombreux compliments qui te sont adressés dans la conversation en ligne. Donc, une première question et après, je donnerai la parole à une dame qui va intervenir aussi en ligne depuis un petit moment. Alors, Zora, je vais...
Moi, j'ai rien à faire. Dis-moi, il faut que je coupe quelque chose.
Normalement,
il faut que je coupe quelque chose. Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord. Ah, okay.
Non, mais moi, c'était spontanément là. C'est une réponse. Je suis pas
oui,
du tout une experte dans le monde. Je suis toute nouvelle. Je découvre. Je trouve que c'est un travail donc. Très très intense, très riche, très voilà, qui donne envie de rêver. Et c'est la dernière intervention sur le fait que tu voulais faire parler l'enfant, la mère. Et ça m'a un peu étonnée parce que c'est pour moi le conte qui a cette place-là. Voilà, c'est tout de façon.
C'est le conte qui a cette place-là. Ah, le conducteur qui est de. Ah non, c'est plutôt qui parle au jeu. Il parle pas au jeu. C'est le point de vue, c'est-à-dire que qu'est-ce que voit la mère ? Elle est où pendant que la fille se fait couper les mains ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Est-ce qu'elle regarde par sa fenêtre ? Elle est en train, parce qu'elle, elle est dans la maison en train de faire le repas, parce qu'elle elle se
fait... Je ne sais pas.
Tout ça, c'est...
Celui qui écoute l'histoire, donc, il entend et puis il suit le chemin du conte. Hein.
Je suis bien consciente qu'il est hors de question que je perde les gens avec cette idée-là et de que je devrais toujours avoir à l'esprit, d'accord, essaye de voir là-dessus, mais ne perds pas les gens dans la trame parce qu'encore une fois, c'est un conte pour moi qui doit être un conte de transmission et que la trame, c'est la base. Quoi. La trame, c'est ça, c'est ce qui se passe. Mais qu'après, j'ai pas envie de raconter ça comme je raconte en cercle de conte, le conte. Parce que j'ai envie d'y apporter. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais je vais travailler avec une artiste brésilienne, performatrice et musicienne extraordinaire qui va travailler aussi. Sa musique va aussi beaucoup à travailler. Et cette femme-là a travaillé beaucoup sur les archétypes, sur le masculin, féminin, énormément. Et elle va nourrir beaucoup de musique. Donc, il y a bien plein de choses aussi que moi, je n'aurais pas besoin de faire. Elle va travailler aussi dans tout ce qui est le patrimoine, les musiques qui viennent, ou même patrimoine et autres. Voilà, donc il y a un travail artistique. C'est ce que je voulais dire à la fin, c'est que ça ne s'arrête pas là. Là, c'est le tout début.
Alors, je suis désolée, on va juste prendre une question, l'intervention d'une personne en ligne, et après, ce sera au tour d'Hélène, parce qu'il reste quand même deux. Non, mais on va décaler un petit peu. Hop. Alors. Voilà, c'est Thyle Lacroix qui voulait intervenir. Est-ce que votre micro est... Branchez Cécile.
Maintenant.
Ça va arriver.
C'est bon?
On ne vous entend pas.
Oui, là maintenant, voilà, peut-être. Bon. Merci. Alors, oui, je pensais pas que c'était moi qui allais en parler. C'est un peu plus vague parce que ça me pose des questions beaucoup en ce moment. Je travaille beaucoup avec des adolescents. Et je me suis posé la question, donc je vais relire ce que j'avais écrit, de la question générale de la compréhension des symboles aujourd'hui. Donc, effectivement, on a Artémis, le cerf, etc. Bon, mais...
Non, mais Artémis, j'en parle pas.
Oui, oui, non, mais j'ai bien compris.
Le cerf, il existe toujours.
Alors,
non, attendez. J'ai bien compris, mais la question que je me pose, moi, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, est-ce que les ados d'aujourd'hui, même inconsciemment, est-ce qu'ils arrivent encore à comprendre de symboles? Et pas que dans ce que tu as dit Mathilde, hein, mais est-ce qu'ils le comprennent ? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un appauvrissement des réflexions, de la compréhension, même de l'imaginaire des enfants. Oui. Et je me demandais si c'était que moi ou si c'était...
Alors déjà, qu'ils le qu'ils comprennent ou pas, peu importe, mais en tout cas, ce sont des symboles très forts et qui existent depuis la nuit des temps. Donc, pour moi, il y a une espèce de transmission, d'où ma question, est-ce que la femme le savait intuitivement ou pas, hein, d'ailleurs, la jeune fille, je veux dire, savait ou pas, et que c'est justement en racontant ça et en mettant ces symboles qu'ils vont le percevoir et qu'ils vont le même s'ils ne comprennent pas exactement ce que c'est, peu importe, ça va les toucher, en tout cas, c'est des moments où je sais que pour moi, il faudra que je compte à ce moment-là assez fortement pour montrer que c'est un moment puissant, même s'ils ne savent pas qu'un cercle blanc, c'est un cercle de protection, ou que voilà, qu'il y a la déesse de ça, mais que c'est, ça sera pour moi ma manière de compter parce que je suis nourrie, qui essaiera de transmettre ce moment fort comme un moment puissant et c'est sûr qu'on connaissait certainement plus la signification, la symbolique de manière claire, mais il me semble qu'on a toujours quand même des choses qui restent et qu'on voit par exemple même les jeux des vidéos qui font, ils adorent toutes les mythologies allemandes, tout, enfin, les mythologies nordiques, voilà, nordiques et autres. On voit que tout ça, c'est très, 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 très sensible à tout ça. Donc, je pense que ce n'est pas trop un problème.
Je suis vraiment désolée, on va être obligé de clore, même s'il y a de nombreuses questions, mais voilà.
Après, moi, je suis tout à fait ouverte à ce qu'on revienne vers moi et qu'on en discute, puisque moi, le but, c'est de faire aussi, je vous ai donné un petit peu de ma... de mon travail. Donc, n'hésitez pas à... Et je suis... Je n'ai aucune vérité là-dessus. Hein, c'est que, au contraire, peut-être que chacun des propos de nous va me faire évoluer sur ma manière de penser. Que finalement, je me suis trompée sur un truc et que c'est autre chose.
Je pense qu'il faut prendre ce travail aussi comme un
recherche. Ah oui, c'est exactement ça.
On a des retours, on se tisse.
N'hésitez pas à...
Merci beaucoup Mathilde. Nous allons accueillir.